VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Anastasie Tudiech avec vous. 17h30 en temps universel. Le monde aujourd'hui. Édition du vendredi 18 août. Au sommaire ce soir, en Espagne, poursuite de la traque des auteurs présumés des attaques à Barcelone et Cambrils. Au Mali, ouverture à Bamako du procès de l'ancien chef de la police islamique du Moujao. Au Niger, un rapport d'enquête sur la mort d'un étudiant en avril sur le campus universitaire de Niamey incrimine la gendarmerie. En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition réclame l'arrestation de la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe. Le monde aujourd'hui, c'est aussi l'économie et le sport, mais tout d'abord le journal. Au Mali, après un premier report du jugement d'Aliou Mahamane Touré, ancien juge islamique du Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao, a démarré ce vendredi 18 août 2017 à la cour d'appel de Bamako. L'accusé a rejeté en bloc les multiples accusations des victimes avant de demander des dédommagements à l'État malien. Kassim Traoré.
Ce procès avait été renvoyé à ce vendredi 18 août à la demande du parquet et de l'Association malienne des droits de l'homme pour permettre la comparution des témoins de la partie civile. C'est pourquoi, dès l'ouverture de l'audience, la parole a été donnée à la partie civile. Les témoins et certaines victimes ont expliqué leurs souffrances. Des chauffeurs dont les pieds ont été amputés qui ne peuvent plus conduire. Certains témoins trouvent que les atrocités commises par Aliou Agao dépassent tout commentaire. L'ancien commissaire du Moujao, qui est accusé de crimes de guerre, de torture et de terrorisme, a nié tout à la barre. Pour lui, il a rejoint le Moujao avant de sauver la vie de 6 cadres maliens en les aidant à fuir de Gao. C'est pour cela qu'à la barre, Aliou Mahamane Touré demande un dédommagement aux autorités maliennes, car c'est l'État qui a fui ses responsabilités au nord, abandonnant les populations à leur triste sort. Raison pour laquelle il a fait le choix entre le Moujao et le MLLA pour avoir la vie sauve. D'après Aliou, l'État veut lui faire porter le fardeau du Moujao. Il est à rappeler que Aliou Mahamane Touré a été arrêté en décembre 2013 dans la localité de Gossi par les forces armées de sécurité du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Sierra Leone, 4 jours après les inondations qui ont fait plus de 400 morts à Freetown, les habitants de la capitale du pays, et en particulier les enfants, sont confrontés à un nouveau danger mortel, l'apparition de maladies telles que le choléra et la malaria. Save the Children estime que 122 enfants ont perdu la vie et que 123 sont devenus orphelins en raison de ces inondations. Au Niger, un rapport d'enquête sur la mort d'un étudiant en avril sur le campus universitaire de Niamey incrimine la gendarmerie. Les enquêteurs estiment que c'est un tir d'un gendarme qui a tué Mala Bagalé. Abdourahmane Dia.
Selon la commission d'enquête indépendante, l'étudiant Mala Bagalé a été victime d'un tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie. Le rapport de la police scientifique corrobore la thèse du tir à bout portant à moins de 100 mètres et écarte en même temps l'hypothèse d'une chute fatale sur une quelconque pierre, souligne le rapport. Cher Ali Ben Salah, un membre de la commission, a expliqué à la radio publique nigérienne que les enquêteurs sont parvenus à cette conclusion sur la base des auditions des parties prenantes, des investigations, des reconstitutions et simulations sur le terrain. Il a renvoyé 2 ados, gouvernement et étudiants, sur les origines de la manifestation, notamment du fait d'une rupture du dialogue entre les deux parties. Les étudiants de l'université de Niamey avaient entamé un important mouvement de protestation pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Cette contestation avait provoqué des affrontements avec les forces de sécurité.
Au Nigeria, bientôt la rentrée pour les Chibok Girls, les 106 lycéennes de Chibok, libérées au cours des derniers mois des mains du groupe terroriste Boko Haram, feront leur rentrée des classes à l'université en septembre. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Madame Aisha Alassane, la ministre nigériane pour le droit des femmes. 276 filles avaient été enlevées en avril 2014 dans leur lycée à Chibok, dans l'état du Borno, suscitant une vague d'indignation internationale. En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition réclame l'arrestation de la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, soupçonnée d'avoir agressé une jeune femme. Le point d'Ilidico.
Personne n'est au-dessus des lois et l'Alliance démocratique fera tout son possible pour s'assurer que Madame Mugabe ne soit pas autorisée à quitter l'Afrique du Sud sans répondre aux accusations contre sa personne, indique le communiqué. Le principal parti d'opposition estime que la première dame du Zimbabwe ne remplit pas les conditions pour obtenir l'immunité diplomatique et qu'elle doit être arrêtée pour répondre aux charges de coups et blessures. Grace Mugabe est accusée d'avoir agressé dimanche une mannequin de 20 ans qui se trouvait dans le même hôtel qu'elle. La jeune femme a déposé plainte pour coups et blessures. Robert Mugabe est arrivé mercredi soir en Afrique du Sud, le jour où son épouse devait se présenter devant la police avant de changer d'avis et demander l'immunité diplomatique. Elle n'a pas été vue en public depuis l'incident, mais ce week-end, le couple Mugabe doit participer au sommet de la SADC à Pretoria.
Et toujours en Afrique du Sud, la justice sud-africaine a décidé ce vendredi de bloquer la libération de l'assassin du leader communiste anti-apartheid Chris Hani, abattu en 1993. Cet assassinat avait provoqué de violentes émeutes dans les townships et l'an dernier, la haute cour avait décidé de la libération de l'assassin, une décision critiquée par le Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir. La Cour suprême saisie par le gouvernement a finalement cassé ce jugement aujourd'hui. En Somalie, 4 villageois ont été tués à l'arme blanche dans un raid revendiqué par les islamistes radicaux somaliens Shebab contre leur localité dans la nuit de jeudi à vendredi dans le comté côtier de Lamu au sud-est du pays. Depuis son intervention militaire en Somalie, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité internationale est dominée par l'attentat perpétré hier à Barcelone en Espagne. Les policiers continuent de traquer le conducteur d'une camionnette qui a fauché hier des dizaines de personnes à Barcelone. Un second attentat sur la côte catalane a porté le bilan à au moins 14 morts et une centaine de blessés. Faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
La police recherche Moussa Oukabi, frère de Driss Oukabi, l'un des suspects arrêtés. Elle a mis la main sur une quatrième personne. Hier, 5 terroristes ont été abattus. Les policiers estiment que tous les suspects sont liés à l'attaque de Barcelone, revendiquée par le groupe État islamique qui avait procédé de la même manière à Nice, Londres et Berlin. Les victimes du double attentat sont d'au moins 35 nationalités. L'Espagne observe un deuil national de 3 jours. Le roi Felipe VI et le chef du gouvernement Mariano Rajoy se sont joints au gouvernement local de la Catalogne pour observer une minute de silence. La foule a ensuite applaudi et a scandé « Nous n'avons pas peur » en catalan. Le président Donald Trump a proposé son aide et a déclaré sur Twitter que le terrorisme islamique radical doit être arrêté par n'importe quel moyen nécessaire, sans autre précision.
Yacouba Ouedraogo et le président Trump, toujours au cœur d'une polémique née de ses propos sur Charlottesville. La mère de Heather Heyer, la femme de 32 ans, tuée par un sympathisant néo-nazi à Charlottesville en Virginie, s'en est prise au président américain. « Je ne parle plus au président désormais, je suis désolée, après ce qu'il a dit sur mon enfant », a dit Susan Brow sur la chaîne ABC, expliquant avoir vu des extraits de la conférence de presse dans laquelle Donald Trump disait que les manifestants antiracistes, comme sa fille, et le Ku Klux Klan et les suprémacistes blancs étaient équivalents. Le secrétaire d'État Rex Tillerson, sans se démarquer explicitement des propos présidentiels, a vivement condamné le racisme et le fanatisme sous toutes leurs formes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté ce vendredi les Turcs d'Allemagne à ne voter pour aucun des deux partis de la coalition au pouvoir menée par Angela Merkel, ni pour les Verts aux législatives de septembre, un appel que Berlin a dénoncé comme un acte d'ingérence. La diaspora turque en Allemagne est forte de 3 millions de personnes, dont 1,2 million sont de nationalité allemande. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
En Côte d'Ivoire, après 8 mois de négociations, le gouvernement et les principales organisations syndicales de fonctionnaires ont signé jeudi 17 août 2 protocoles d'accord. Il prévoit une trêve sociale de 5 ans en échange de la satisfaction de 5 des 6 revendications des agents de l'État. La principale concerne le paiement des arriérés de salaire, estimé à près de 250 milliards de francs CFA. Au Nigeria, des travaux d'extension de réseaux ferroviaires ont démarré. Le coût total est estimé à 41 milliards de dollars. L'objectif, développer son économie non pétrolière en stimulant le transport des marchandises à l'intérieur du pays et jusqu'au port maritime. Inquiétude au Congo-Brazzaville, qui est au bord de l'effondrement économique avec la chute du prix de l'or noir. Les espoirs pour les trois prochaines années sont en direction du gisement pétrolier Moho Nord, phase 2, opéré depuis mars dernier par la compagnie EEP, filiale du groupe français Total. Il fournira environ 20% de la production de pétrole, soit 267 000 barils par jour en 2017 et espère atteindre 250 000 barils par jour en 2018 pour se hisser au troisième rang des pays producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, derrière l'Angola et le Nigeria. Place au sport à présent avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Coup d'envoi de l'Afrobasket 2017, dames, et c'est à Bamako que ça se passe.
Et oui, la 25e édition du championnat d'Afrique des nations de basketball dames a bien débuté pour les Sénégalaises, auteurs d'un carton 105 à 39 devant la Guinée. Sur place pour VOA Afrique, Amdinsi.
C'est parti, le top départ de la 25e édition de l'Afro-Basket féminin a été donné ce vendredi au Palais des Sports Salimata Maïga de Bamako avec la rencontre d'ouverture Sénégal-Guinée, un match remporté largement par les champions d'Afrique sur le score de 105 à 39, soit 68 points d'écart. Avec cette victoire aux allures de démonstration de force, les Lions de la Teranga sont bien partis pour la défense de leur titre continental en atteignant la barre symbolique des 100 points. Les filles de Tafagaï vont redescendre sur le parquet du Palais des Sports pour affronter le Mozambique. Ce sera ce samedi à partir de 20h45 à Medinsi, Bamako, VOA Afrique.
Les autres résultats, la République démocratique du Congo battue par l'Égypte 72 à 99. Le carton de la Côte d'Ivoire face à la République centrafricaine, victoire 104 à 57. Les autres rencontres de la soirée, Angola-Cameroun, Mali-Tunisie et Mozambique-Nigeria.
Les attentats de Madrid sont aussi dans la tête des joueurs du Barça.
Les joueurs du FC Barcelone ont respecté une minute de silence à l'entraînement en mémoire des victimes des attentats qui ont ensanglanté la Catalogne. Sur une vidéo diffusée par le Barça sur Twitter, on peut voir Lionel Messi, Andrés Iniesta et leur partenaire l'air grave rassemblés sur la pelouse du centre d'entraînement du club. Le Barça qui reçoit le Betis Séville dimanche soir pour le compte de la première journée de la Liga.
Et enfin Nicolas, reprise du championnat en Italie.
Fragilisé par les départs de Bonucci et Dani Alves et un échec surprenant en Supercoupe d'Italie, la Juventus Turin part demain en conquête d'un septième titre consécutif en Serie A avec la réception a priori tranquille de Cagliari lors de la première journée. Dimanche, les autres candidats aux premières places entreront en lice. La Roma sans Totti dans son effectif pour la première fois depuis 25 ans aura un déplacement très compliqué sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, surprenant et séduisant. Quatrième de la saison l'année dernière.
Merci Nicolas Pineau.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique. Et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Vous écoutez VO Afrique, c'est Le Monde aujourd'hui. Anastasie Tudiesh avec vous. Tout de suite, les dossiers du jour. Paul Kagame a prêté serment aujourd'hui à Kigali pour un troisième mandat de 7 ans à la tête du Rwanda. Près de 99% des électeurs l'ont réélu lors de la présidentielle du 4 août. Monsieur Kagame dirige son pays depuis la fin du génocide de 1994 et a réussi à le redresser économiquement. Il est toutefois critiqué pour son manque d'ouverture démocratique. Alors, quels sont les nouveaux défis qui attendent le président Kagame? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à l'analyste politique Henri Désiré Nzougi. Écoutons-le.
Je dirais que la première des choses sera d'amplifier la dynamique qu'il a su impulser au niveau économique et en termes de reconstruction de son pays, puisque les résultats qu'il a obtenus ces dernières années ont été confirmés par de nombreux rapports, comme ceux de l'indice de développement humain, comme ceux du Doing Business, qui permettent d'affirmer que c'est un pays africain qui tire plutôt son épingle du jeu en matière de bonne gouvernance. À côté de ça, évidemment, pose la question de savoir s'il sera dans le même temps en mesure de pouvoir ouvrir davantage le jeu démocratique, ce qui n'est pas forcément acquis, puisqu'il faut se souvenir quand même qu'il y a de cela quelques années déjà, l'une des figures les plus emblématiques de l'opposition, une femme, en l'occurrence Madame Ingabire, a été arrêtée et à ce jour, elle purge toujours sa peine.
Justement, Kagame est accusé de diriger le pays d'une main de fer et aujourd'hui même, il a dénoncé les tentatives d'ingérence dans la politique de son pays. Qu'en pensez-vous ?
Bon, c'est de bonne guerre que de dénoncer des principes qui sont rappelés par des partenaires extérieurs. Tout le monde s'accorde à dire que Paul Kagame a effectivement mis de l'ordre dans son pays. Toutefois, il y a effectivement cette question liée notamment à la gestion démocratique du pays. Il y a des opposants en interne et en externe qui, dont les messages en tout cas sont relayés par une communauté internationale qui, tout en reconnaissant les efforts qui ont été consentis, souhaite ou en tout cas espère à tout le moins que le jeu démocratique sera plus ouvert pour les prochaines années.
Alors on peut bien critiquer Kagame, mais les Rwandais dans leur grande majorité veulent le maintenir à la tête du pays pendant encore longtemps. Est-il donc vraiment possible d'imaginer un Rwanda sans Kagame, du moins au terme de son nouveau mandat ?
La question se posera à l'issue de ce mandat. Bon, si maintenant le peuple rwandais souhaite lui renouveler sa confiance, je ne suis pas certain que et la communauté internationale et les pays voisins et quiconque soient en capacité de délier ce droit au peuple rwandais. Donc c'est une question de politique intérieure. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il va faire de sa victoire, une victoire écrasante, qui de mon point de vue lui serait bénéfique s'il pouvait faire un geste en direction de l'opposition. Je dirais qu'un geste symbolique serait par exemple de gracier Mme Ingabire. Il a tout pour lui pour l'instant et je pense qu'il est en capacité de faire des gestes.
L'analyste politique Henri Désiré Nzougi, joint à Bruxelles.
Abdourahmane Dia à la présentation de votre émission À votre avis ce vendredi à 18h TU sur VOA Afrique. Dans plusieurs pays, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de mobilisation et d'expression. Mais certains activistes ont eu maille à partir avec la justice. Pensez-vous qu'il y a des abus ou que ce sont plutôt les gouvernements africains qui cherchent à bâillonner leurs critiques? Quelle est la situation dans votre pays? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Au Cameroun, lutte contre le VIH-Sida, l'association Vacances sans Sida a lancé sa nouvelle campagne de dépistage auprès des jeunes le 4 août dernier. Objectif, susciter la prise de conscience de cette population et y réduire le risque de contamination au VIH. En 2016, plus de 800 jeunes avaient été déclarés positifs sur les 336 000 dépistés. John Lyndon a joint à Yaoundé Aristide Verlin Chapon, président d'une association de personnes vivant avec le VIH-Sida.
Malgré les efforts qui sont fournis, c'est une réalité de rencontre. C'est de voir qu'il y a tant de jeunes qui sont infectés chaque jour. Et la difficulté, c'est que l'État dit qu'ils font des efforts, pourtant nous ne voyons pas réellement les actions de l'État sur le terrain.
Votre association fait partie de celles-là qui essayent de sensibiliser. Qu'est-ce qu'il vous manque pour que ce travail que vous faites soit efficace?
En réalité, quand les bailleurs de fonds sont en voie de mesure, bien des moyens, c'est la sensibilisation, la prise en charge, le suivi, sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas, les associations ne bénéficient pas quand ces moyens arrivent au niveau de l'État. Or, nous aurons souhaité que ces bailleurs de fonds appellent les associations et ensemble pour échanger. En passant par l'État, ça va toujours les mêmes difficultés. On va prendre l'argent, on n'a pas fait ce qu'il y a à faire sur le terrain. Parce que nous sommes plus proches de la population par rapport à l'État.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes ne sont pas conscients de l'existence même du VIH-SIDA ou tout simplement que le message n'arrive pas à leur niveau?
En fait, on ne pourra pas dire que les gens ne sont pas conscients. Les gens savent que le VIH-SIDA existe. Mais seulement, est-ce qu'il y a suffisamment de moyens mis à la disposition de ces personnes-là pour qu'ils ne soient pas infectés? Je veux dire, est-ce qu'il y a un accompagnement déjà sur le terrain psychologique pour éviter la maladie? Est-ce qu'il y a les moyens, je prends l'exemple, est-ce qu'il y a suffisamment de préservatifs? Est-ce qu'il y a suffisamment de sensibilisation autour de ça? Rien, pratiquement rien n'est fait. Ça fait que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Imaginez-vous un jeune qui ne travaille pas. Vous voyez, mais notre fille ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il a pu penser à faire quoi? À s'amuser, à faire le texte à gauche, à droite. Or, s'il avait fait une occupation, ça l'aurait évité de s'amuser n'importe comment, ça c'était un. Le deux, s'il avait les moyens, c'est-à-dire, s'il était sensibilisé à fond par rapport à l'existence au de la maladie, ça l'éviterait encore de pouvoir s'amuser n'importe comment. Mais il n'y a pas suffisamment d'informations et sensibilisation à ce sujet.
C'était l'analyse d'Aristide Verlin-Chapon, président d'une association de personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée-Bissau, plusieurs familles ont perdu cette nuit leurs habitations, détruites par la forte pluie accompagnée d'orages dans la capitale, mais également dans le sud du pays. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Nouaman Kali.
La pluie accompagnée d'un vent fort a laissé plusieurs familles sans abri, non seulement dans la capitale Bissau, mais aussi dans le village de Bianga, secteur de Foulakunda au sud du pays, où plusieurs maisons et magasins d'épicerie ont été posés au sol la nuit dernière. Pape Sambou, qui a parlé au nom des victimes, a souligné que cette pluie torrentielle accompagnée de l'orage a tout détruit.
C'était hier vers 9h de la nuit. Il faisait 22h moins 20. L'orage a commencé avec un vent très fort qui a démoli trois maisons, mais rien n'est sorti. Il a enlevé ma toiture, il a tout arraché, même une boutique. Et si on te dit que personne n'est mort, tu ne vas pas le croire, parce que toute la maison est détruite. Ce n'est pas le riz, les habits tout mouillés, gâtés. Rien n'est sorti et Dieu nous a aidés, personne n'est blessé ni mort. La chance est que lorsque l'orage est passé, nous avions réveillé tout le monde et nous sommes restés au dehors sous la pluie jusqu'à la fin.
D'autre part, Sambou fait appel à des gens de bonne volonté pour les soutenir dans la récupération de leurs biens perdus, ce qui pourrait minimiser les souffrances des familles victimes.
À cet effet, nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de nous aider. Ceux qui ont la volonté de Dieu, le président de la République, le premier ministre, les différents députés de toute la Guinée-Bissau, avec des habits et de la nourriture parce que nous n'avons rien.
C'était Pape Sambou qui se lamentait du désastre causé par la forte pluie torrentielle qui s'est battue en Guinée-Bissau. Nouaman Kali Bissau, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Rapprochement entre le pouvoir ivoirien et des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, emprisonné à la CPI. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a rencontré récemment à Paris Alain Toussaint, ancien porte-parole de Laurent Gbagbo. Abdourahman Dia a posé la question à Alain Toussaint des raisons de son rapprochement avec Guillaume Soro.
Avec ce que nous avons vécu, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de nous rassembler. Et depuis quelques années déjà, après avoir fait le tour du monde pour expliquer la situation en Côte d'Ivoire, j'ai accepté la main tendue par le régime Ouattara à travers M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, pour que nous puissions ensemble remettre les Ivoiriens ensemble.
Justement, beaucoup ont constaté ce rapprochement avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à plutôt vous rapprocher de lui?
Depuis l'avènement de M. Ouattara au pouvoir, la société ivoirienne s'est encore davantage divisée. Les lignes de fracture sont énormes. Des milliers des nôtres demeurent en exil quand des centaines d'autres sont détenus par le régime de M. Ouattara. Dans le même temps, la situation sociale ne s'améliore pas, les problèmes économiques demeurent et la tension persiste au sein de la population. C'est vrai, des camps se sont confrontés. Il y a eu de la violence, il y a eu mort d'hommes. Mais quand on a pour seul héritage de nos devanciers et de nos aînés qu'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'autre choix que de nous parler. C'est la raison principale pour laquelle j'ai accepté la main tendue du président de l'Assemblée, Guillaume Soro.
2020, c'est dans 3 ans, c'est vrai, mais certains voient déjà Guillaume Soro comme étant un des potentiels candidats à la succession du président Ouattara. Vous voyez une alliance dans ce sens ou bien?
L'élection présidentielle de 2020 est dans tous les esprits, au point même de créer déjà des crispations à la fois au sein du pouvoir et des tensions au sein de l'opposition. Je pense qu'il est encore trop tôt pour parler des ambitions des uns et des autres, mais Guillaume Soro lui-même saura sans doute parler de son projet politique.
Décide de se présenter, vous allez le soutenir ou...
On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Ce que je voudrais simplement indiquer, rappeler aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, il y a la paix, le pardon, la réconciliation à construire. Nous devons œuvrer afin que ce qui s'est produit en 2010-2011 ne se réitère pas dans notre pays.
C'était Alain Toussaint de passage à Washington.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, zouk, reggae, salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique. Peace Africa.
Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Yeah, yeah. Ooh, it's been a long, long time. For you, girl, but it seemed I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl, on time, on time. Wow. I want to give you some love. I want to give you some good.
Un duo virtuel et pourtant très efficace, Lauryn Hill et Bob Marley, c'est Turn Your Lights Down Low, extrait du classique de Lauryn Hill à mettre entre toutes les oreilles. The Miseducation of Lauryn Hill, c'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi ce soir. Sim Sloumami et Michel Joseph étaient à la réalisation, assistés de Shadrach Franklin. Je suis Anastasie Tulliesch. Retrouvez l'actualité en continu 24 heures sur 24 sur la page Facebook de VOA Afrique et sur VOA Afrique.com. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.